Bonjour. L'aide humanitaire tente de se coordonner en Haïti après le passage du terrible ouragan Matthew qui aurait fait près de 900 morts. Le Secours populaire de la Haute-Vienne s'apprête à envoyer 10 tonnes de matériel à Jacmel, dont la région a été particulièrement touchée. Nous entendrons son président au début de ce journal. Le Conseil de sécurité de l'ONU examine aujourd'hui deux textes visant à instaurer un cessez-le-feu dans la ville martyre d'Alep, en Syrie. Nous serons avec Violette Voldoir pour un décryptage. Nous reviendrons aussi sur les élections législatives au Maroc, marquée par une forte abstention et par une nouvelle victoire du parti islamiste Justice et Développement. Le journaliste politique et chercheur Abdellah Touradi sera en direct dans un instant. Enfin en France, week-end marqué par une nouvelle mobilisation des opposants au projet de Notre-Dame-des-Landes, mobilisation qui cible le Premier ministre Manuel Valls. Et puis à l'instant, nous apprenons la mort de Pierre Tchernia, pionnier de la télévision française. Le bilan s'alourdit en Haïti après le passage de l'ouragan Matthew. On parle désormais de près de 900 morts et de milliers de sans-abri selon l'agence de presse Reuters. Les dévastations se sont produites dans le sud et le sud-ouest de l'île et l'heure est maintenant à la mobilisation internationale. En France, le Secours populaire de la Haute-Vienne s'apprête à acheminer 10 tonnes de matériel humanitaire à Jacmel. L'association y a créé une école en 2010 lors du séisme. À Limoges, le secrétaire général du Secours populaire Thierry Mazabro suit la situation de très près. Il est avec Julien Balidas de France Bleu Limousin.
Les nouvelles sont pas très bonnes puisque la ville est particulièrement sinistrée et le secteur où est l'école, qui est un secteur très rural, a été très endommagé au niveau des habitations, des cultures et du bétail. Donc on est sur une population villageoise déjà très pauvre qui est durement touchée. Après sur la ville, c'est plus un problème d'inondation et il y a un vrai problème qui se dessine qui va être un problème sanitaire avec la crainte du retour du choléra et qui est une vraie source d'inquiétude puisque il n'y a pas de système d'assainissement, donc il y a forcément une situation compliquée au niveau de l'eau qui stagne sur le secteur. On a des contacts avec les correspondants de l'association ASEM Haïti, qui est l'association avec laquelle nous travaillons. Alors c'est quand même compliqué parce que les infrastructures sont très détériorées au niveau téléphone. On a demandé quand même un recensement un peu plus précis des besoins et une évaluation un peu plus précise de la situation parce que les choses sont encore assez confuses par rapport à la situation des personnes et à la circulation des informations.
Et bien qu'affaibli, l'ouragan Matthew poursuit actuellement sa remontée le long de la côte est des États-Unis où il a déjà fait 5 victimes. Les autorités de Caroline du Sud et de Géorgie ont ordonné l'évacuation de milliers d'habitants du secteur côtier. Les États-Unis où Donald Trump est en difficulté à la veille du deuxième débat de la campagne présidentielle contre sa rivale Hillary Clinton. Après les révélations du Washington Post sur les propos très crus du candidat sur les femmes en date de 2005, le républicain s'est excusé sur sa page personnelle Facebook, qualifiant la polémique, je cite, de distraction. Il reconnaît néanmoins que ses propos étaient bêtes. Toujours aux États-Unis, c'est ce soir que le Conseil de sécurité de l'ONU examine les deux projets de résolution visant à instaurer un cessez-le-feu à Alep. La ville syrienne est bombardée sans relâche par Damas et son allié russe depuis plus de 15 jours. Les États-Unis parlent de crimes de guerre. Pour y voir plus clair sur ces deux textes, nous sommes avec Violette Voldoir. Bonjour.
Bonjour.
Le premier projet de résolution est défendu par la France. Quel en est le contenu ?
Alors, la résolution française propose un cessez-le-feu à Alep. Un cessez-le-feu qui inclut l'espace aérien, un point essentiel défendu par Jean-Marc Ayrault cette semaine pour empêcher les forces de Bachar el-Assad et de son allié russe de continuer à bombarder la ville, tuant des centaines de personnes en moins de 2 semaines.
Le deuxième projet est à l'initiative de Moscou. Que propose-t-il de différent ?
Alors Moscou propose également un cessez-le-feu, mais ne veut pas entendre parler d'une inclusion de l'espace aérien. Car la Russie clame avoir besoin de bombarder Alep pour s'attaquer au front Fateh el-Cham. C'est une ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie. Une position alignée sur celle de Bachar el-Assad qui envisage l'élimination de ce groupe armé, selon les mots de son ambassadeur à la télévision russe jeudi dernier. Face à cette menace à peine voilée de raser totalement cette partie d'Alep, c'est l'ambassadeur de l'ONU en Syrie qui a appelé les combattants du front Fateh el-Cham, qu'il estime à près de 900, à quitter l'est de la ville. Une idée qui plaît visiblement à Moscou, qui va proposer ce soir au Conseil de sécurité de l'ONU de cesser ces bombardements, si et seulement si le front Fateh el-Cham quittait la ville d'Alep assiégée à travers des corridors sécurisés. Un contre-feu diplomatique qui donne l'illusion d'être en accord avec la voix de l'ONU en Syrie, mais qui risque bien de bloquer les deux résolutions, la française pour pour cause de veto russe et la proposition russe pour cause de manque de soutien parmi les 15 pays votants. L'ambassadeur britannique a d'ores et déjà rejeté ce texte russe, manœuvre destinée à détourner cyniquement l'attention de la nécessité d'arrêter les bombardements sur Alep. Fin de citation.
Merci Violette Voldoir pour vos explications. Au Maroc, le parti islamiste du PJD est en passe de remporter les élections législatives, élections qui reposent sur un système de listes à la proportionnelle. 305 sièges sur 395 d'ores et déjà attribués. Le parti Justice et Développement en a obtenu 99, presque le tiers des sièges. Bonjour Abdellah Touradi.
Bonjour.
Vous êtes en direct, marocain, journaliste, politique et chercheur. Comment expliquer cette bonne santé du PJD au pouvoir depuis 5 ans, au bilan en demi-teinte, notamment sur le plan économique ?
Ça s'explique pour différentes raisons. La première raison, c'est que le parti continue encore à bénéficier d'une bonne image, notamment d'un parti qui n'est pas corrompu, qui ne traîne pas de casseroles, si j'ose dire. Et cette image, cette présomption de probité chez le PJD joue en sa faveur. Deuxième élément, c'est le personnage et de Belkira, le chef du gouvernement et le patron des partis, qui a mené une campagne tonitruante et qui a été qu'a porté le message de son parti. Et c'est pour ça, enfin, justement, le caractère et la personnalité charismatique de Belkira a joué en faveur du parti islamiste.
Alors le PAM, le parti Authenticité et Modernité, arrive en deuxième position avec 80 sièges. Il double son score par rapport à 2011. Quelle est la spécificité de ce parti ?
Alors, pour le parti, c'est un parti qui se présente comme le rival et le challenger du PJD, du parti islamiste, et se présente aussi comme un parti porteur de projets modernistes, de valeurs modernistes. Mais c'est un parti notamment, enfin, on l'a vu ça pendant les élections communales et régionales en 2015, l'année dernière, c'est un parti qui est fortement bien implanté dans les zones rurales. C'est-à-dire, il y a une dualité actuellement au Maroc où le parti islamiste est bien ancré dans les villes et les grandes villes, Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger, et le PAM, l'autre parti, qui est ancré et qui est bien présent dans les zones rurales. Le PAM est un parti qui se base, qui s'appuie notamment sur un réseau de notables, des candidats notables qui sont connus, où les gens votent pour eux pour des raisons, pour des considérations tribales, ou parce que voilà, enfin, ce sont des gens qui sont connus, qui sont par exemple à la tête de clubs de foot, etc. Donc c'est un parti, je dis, sur, au niveau des messages, au niveau de l'idéologie, se présente comme un parti moderniste, mais qui se appuie sur, encore une fois, sur un réseau de notables. C'est ça la grande différence au parti islamiste, qui n'est pas un parti de notables, mais qui est beaucoup plus une marque politique. Les gens ne votent pas pour le parti islamiste pour ses représentants, pour les candidats, mais votent pour son image d'un parti conservateur et islamiste.
Très bien. Ceci étant dit, le PJD est appelé maintenant à former un gouvernement en tant que premier parti à arriver dans cette élection. Quels sont les scénarios possibles ? Y en a-t-il ?
Il y a plusieurs scénarios. C'est ça, enfin, ce qui est passionnant avec ces élections, c'est qu'on assistait enfin, à des élections au Maroc qui sont assez passionnantes et intéressantes. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un parti qui est le premier, qui est le PJD, mais un deuxième parti de l'opposition qui n'est pas très loin, qui n'est pas si loin que ça, c'est-à-dire qui va avec une vingtaine de sièges. Donc le premier scénario, c'est une alliance entre, enfin une reconduction de la majorité actuelle, c'est-à-dire le PJD en principal, enfin en colonne vertébrale de la majorité gouvernementale, avec des partis d'appoint. Enfin, c'est des partis du Rassemblement National des Indépendants et l'ancien parti communiste. Parce qu'au Maroc, il y a une petite particularité, c'est que l'ancien parti communiste est allié aux islamistes. Deuxième scénario, c'est que le PJD n'arrive pas à former cette alliance. Et là, on est enfin, il y a deux solutions. Soit la deuxième solution, c'est que le deuxième parti sera chargé de former cette alliance, ou bien on aura, enfin, c'est un scénario qui est assez éloigné, à refaire une deuxième fois les élections. Mais majoritairement, enfin, le scénario le plus vraisemblable, c'est la reconduction de la majorité actuelle.
Globalement, ce que vous êtes en train de nous dire, Abdellah Touradi, c'est qu'on assiste à une bipolarisation de la vie politique marocaine.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est là devant deux grands partis, c'est-à-dire à ou deux partis qui sont là, c'est-à-dire le PJD, le parti islamiste, et le parti Authenticité et Modernité, c'est-à-dire ces deux partis qui ont plus que la moitié des sièges au Parlement. C'est même parfois, enfin, ça arrive même aux deux tiers, ils sont pas très loin des deux tiers. Donc c'est-à-dire qu'on aura un parti majoritaire au gouvernement, c'est-à-dire le parti islamiste, et un parti qui est assez puissant, assez fort dans l'opposition. C'est une situation qui est enfin inédite dans l'histoire du Maroc, où toujours on a eu sur un parti majoritaire, mais des partis, mais une myriade et un groupe de partis qui sont pas très très loin, mais on n'a jamais eu deux partis qui trustent, si j'ose dire, les voix et les sièges au Parlement.
C'est la première dernière fois question, excusez-moi, dernière question très rapidement. Oui. Quelle est la position de la monarchie? C'est important d'en parler dans ce jeu des alliances à venir. Très rapidement, s'il vous plaît.
Bien sûr, c'est le roi qui nomme le chef de gouvernement du premier parti, c'est-à-dire maintenant ça va être le PJD. Ben, le roi, enfin, il se présente au-dessus justement des jeux politiques, au-dessus des jeux des élections. Donc c'est un arbitre. Et voilà, enfin, en cas de crise politique, c'est à la monarchie, c'est au roi de trancher.
Merci Abdellah Touradi d'avoir été en direct dans le journal de France Culture. Vous êtes journaliste politique et chercheur. En France, plusieurs milliers d'opposants au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes rassemblés depuis ce matin sur la zone à défendre. Que résonne le chant de nos bâtons? C'est le slogan de cette journée durant laquelle de nouvelles constructions seront inaugurées et notamment un hangar destiné à servir de repli en cas d'intervention des forces de l'ordre. Mobilisation en réponse au Premier ministre Manuel Valls qui souhaite faire évacuer le site cet automne après la validation du référendum. C'était en juin dernier. Le reportage de Véronique Rebérotte.
Le message envoyé au gouvernement doit être clair. Il faut faire comprendre à Manuel Valls que ce serait une très mauvaise idée de tenter d'évacuer les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Geneviève Coiffard, l'une des organisatrices, espère des manifestants par milliers et autant de bâtons mis dans les roues du projet.
Il y aura donc une sorte de cérémonie des bâtons pour dire qu'on plante nos bâtons dans le sol de Notre-Dame-des-Landes comme symbole de notre engagement à défendre la zone. Et on a aussi dans l'idée les luttes paysannes où le bâton a été un symbole très fort, pour le Larzac par exemple. On est sur le symbole de la détermination.
Initialement, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes aurait dû être inauguré en 2017. Du côté de la CGT, chez Vinci, concessionnaire de l'aéroport, plus les années passent, plus le projet apparaît périlleux pour les salariés. Francis Lemasson de la CGT Vinci.
Nous appelons les salariés en cas où ils sont appelés à intervenir sur un chantier sur Notre-Dame-des-Landes, à faire jouer leur droit de retrait pour cause de mise en danger de leur intégrité physique et de celle du matériel. Comment voulez-vous travailler, creuser une tranchée, si pour ça il faut être protégé par un cordon de police avec tous les projectiles susceptibles de vous passer par-dessus la tête? Ce n'est pas envisageable.
Le Larzac comme modèle pour les opposants à Notre-Dame-des-Landes. En 1981, à peine élu président de la République, François Mitterrand décidait d'abandonner l'extension du camp militaire. La lutte a duré 10 ans.
La société civile à l'origine d'un grand nettoyage du port de Marseille ce samedi. 500 bénévoles vont prêter main forte à une cinquantaine de plongeurs professionnels. Opération involontairement déclenchée par un film tourné par l'ONG Sea Shepherd. De passage dans la cité phocéenne l'été dernier, l'association avait filmé l'invraisemblable bric-à-brac sous le vieux port de Marseille pour sensibiliser à la pollution en Méditerranée. L'opération est prise en charge aujourd'hui par le Conseil du territoire Marseille-Provence et la métropole d'Aix-Marseille, opération plus dangereuse et complexe qu'il n'y paraît, Olivier Martoc.
Le vieux port, c'est 26 fois la superficie de la pelouse du vélodrome. La seule solution pour le nettoyer est de descendre avec des bouteilles. Il n'est pas profond, moins de 7 mètres. Mais l'eau est opaque, la visibilité est inférieure à 1 mètre. L'autre difficulté, c'est que dans la vase, il y a de tout. Des caméras ont renvoyé la semaine dernière des images invraisemblables de filets encastrés dans des câbles électriques, de déchets de toutes sortes, souvent de taille imposante comme des carcasses de bateaux coulés ou plus incongru un coupé Alfa Romeo des années 70. Il y a aussi des deux roues, motos, scooters, vélos et poussettes. Ce sont des plongeurs professionnels qui vont se charger de récupérer ce bric-à-brac. Ils poseront les objets dans des filets qui seront remontés depuis les grues des pannes par les plaisanciers. Avec une grande question, est-ce que des squelettes, les pieds coulés dans le béton, figureront parmi les trophées? Une des légendes du milieu marseillais raconte que c'était une des façons de faire disparaître ses ennemis.
Dans la course à la primaire à droite, Alain Juppé a choisi une terre communiste, Malakoff, en région parisienne, pour présenter son projet présidentiel pour les jeunes. Ça sera cet après-midi. Et puis demain, Nicolas Sarkozy sera au Zénith de Paris. Nicolas Sarkozy, personnalité clivante. Si l'ancien président de la République remporte la primaire à droite, les centristes de l'UDI pourraient décider d'investir leur propre candidat. C'est ce que déclare en tout cas Chantal Joanneau, la porte-parole du parti. Enfin, il était l'un des pionniers de la télévision française. On apprend à l'instant la mort de Pierre Tchernia, réalisateur, concepteur et animateur d'émissions de télévision. Il était surnommé Monsieur Cinéma en raison de sa participation à l'émission du même nom. Pierre Tchernia avait 88 ans et c'était aussi une grande voix.
C'est la première de la nouvelle formule cette année, de la nouvelle saison. Ce soir, on aura peut-être des petits soucis, mais enfin, vous savez, c'est la vie. Et puis, ils sont extrêmement indulgents, très gentils, les spectateurs. Oui. Alors, Sophie, nous allons faire les soirées cinéma, au cours desquelles nous présenterons beaucoup de films en version originale. Mais je me permets de vous signaler que version originale peut vouloir dire aussi film français. Ainsi, dans les semaines qui vont venir, nous aurons le plaisir de présenter aux téléspectateurs L'ombre d'un doute d'Hitchcock, Les bas-fonds de Jean Renoir, La femme du boulanger de Pagnol, Casque d'or de Jacques Becker, et puis nous verrons aussi Marlène Dietrich dans L'ange bleu. Enfin, je crois qu'il y a une série de
quelques bonnes soirées en perspective.
Passionnants.
La voix puis, de Pierre Tchernia en train de présenter Monsieur Cinéma. Il est mort ce samedi à l'âge de 88 ans. C'était une archive. Delina, la météo de votre samedi est ensoleillée sur la moitié sud, temps variable au nord de Paris. Les températures cet après-midi, elles iront de 14 à 19 degrés au nord et de 15 à 20 degrés au sud.